VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le président américain Donald Trump a quitté aujourd'hui le Japon après une visite d'État de 4 jours au cours de laquelle il a été le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur Naruhito. Lors de sa visite, le président américain a adopté un ton conciliant lundi face à la montée des tensions avec l'Iran, assurant que Washington ne cherchait pas un changement de régime à Téhéran et s'est montré optimiste quant aux intentions de la Corée du Nord, vantant l'intelligence de son dirigeant Kim Jong-un. Les États-Unis ont quitté aujourd'hui la réunion de la conférence du désarmement de l'ONU à Genève, dont la présidence tournante est revenue au Venezuela. L'ambassadeur américain a qualifié le Venezuela d'État hors la loi. Les États-Unis et une cinquantaine d'autres pays reconnaissent le chef de l'opposition, Juan Guaido, comme le président par intérim du Venezuela. Le premier ministre israélien dans une course contre la montre, Benjamin Netanyahou, qui a remporté les législatives du 9 avril, a obtenu hier 2 semaines de délai jusqu'à fin mai pour former un nouveau gouvernement de coalition. Idrissa Seydoudia.
Israël semble s'acheminer vers de nouvelles élections face à l'incapacité du premier ministre Benjamin Netanyahou à former un gouvernement de coalition de droite. La Knesset, le Parlement israélien, a approuvé hier une motion préliminaire pour sa propre dissolution. Et si cette motion est approuvée pour une seconde fois mercredi, Israël sera obligé de convoquer de nouvelles élections. L'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, insiste sur l'adoption d'une loi pour le service militaire des Juifs ultra-orthodoxes qui bénéficie actuellement d'une exemption systématique. Les alliés ultra-orthodoxes de M. Netanyahou ne sont pas d'accord avec lui.
Le président Donald Trump envoie 1500 militaires au Moyen-Orient pour décourager toute menace iranienne potentielle. Cette semaine, des responsables de son administration ont indiqué aux législateurs américains que Washington ne cherchait pas à provoquer Téhéran. Les explications de Patsy Widakushra, la correspondante de VOA à la Maison-Blanche, et le récit est de Arzuma Compaoré.
Avant le Memorial Day, le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont visité les tombes des soldats au cimetière national d'Arlington. Un jour plus tard, il annonçait qu'il enverrait plus de troupes pour faire face aux tensions grandissantes au Moyen-Orient. Donald Trump, président des États-Unis.
Nous allons envoyer un nombre relativement restreint de soldats, principalement pour assurer la protection. Et des personnes très talentueuses se rendent actuellement au Moyen-Orient. Et nous verrons comment et ce qui se passera. Nous enverrons environ 1500 personnes.
Des navires de guerre américains et des groupes de porte-avions ont déjà été déployés dans le golfe Persique. Des responsables de l'administration ont déclaré que cette initiative avait permis de mettre les menaces iraniennes en veilleuse. Patrick Shanahan, secrétaire à la défense par intérim.
Nous sommes dans la région pour gérer beaucoup de choses, mais pas pour entrer en guerre avec l'Iran.
Bien que Téhéran aussi dise qu'ils ne veulent pas de la guerre, les analystes estiment que le risque de confrontation est élevé. Dalia Dasakai est directrice du Centre pour les politiques publiques du Moyen-Orient à la RAND Corporation.
Chaque partie tente d'adopter une posture de dissuasion, donc présence accrue de forces américaines dans la région pour envoyer un message aux Iraniens. Si vous nous attaquez, nous exercerons des représailles. Les Iraniens font la même chose.
Après avoir retiré les États-Unis de l'accord nucléaire iranien en 2018, Trump a mené une campagne de pression maximale au moyen de lourdes sanctions pour empêcher l'Iran de produire des armes nucléaires et pour contenir son expansionnisme à travers le Moyen-Orient. Anthony Cordesman du CSIS.
Nous avons formulé 13 exigences complexes concernant les Iraniens, leurs relations avec tous leurs voisins ainsi qu'avec le monde entier.
Il est peu probable que l'Iran satisfasse à ces exigences. Le président Hassan Rouhani a rejeté l'idée de pourparlers, déclarant que l'Iran ne s'inclinera jamais. Ce qui se passera ensuite n'est pas clair. Trump parle durement de l'Iran, mais a fait campagne contre les guerres sans fin. Pendant ce temps, le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a plaidé pour une action militaire et même un changement de régime.
L'ambiguïté sur ce que l'administration souhaite réellement crée des problèmes et rend difficile l'obtention des résultats escomptés.
Certains analystes considèrent que le manque de clarté sur l'Iran est emblématique de l'approche globale de la politique étrangère de Trump, dans laquelle l'administration s'efforce d'atteindre un résultat, mais manque de crédibilité dans ses messages.
Cela va de la stratégie clairement énoncée au tweet. Mais on ne sait jamais, au jour le jour, à quoi s'attendre.
Le déploiement des troupes est un changement de stratégie pour Trump, lui qui a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de réduire la présence militaire américaine dans la région.
Human Rights Watch a dénoncé de graves abus et crimes de guerre commis par les forces de sécurité égyptiennes et la branche locale du groupe État islamique qui s'affrontent dans le nord de la péninsule du Sinaï, selon un rapport publié aujourd'hui. Le rapport de 134 pages intitulé « Si vous craignez pour vos vies, quittez le Sinaï », abus des forces de sécurité égyptiennes et des affiliés à l'État islamique dans le nord Sinaï a été réalisé sur la base de plus de 50 témoignages de résidents, d'anciens responsables locaux et internationaux. Les autorités égyptiennes n'avaient pas réagi à la publication du rapport ce matin, peu après sa publication.
Nos infos sur voaafrique.com.
Il est 11h06 à Conakry. Le chef de l'État du Malawi, Peter Mutharika, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 21 mai, sera investi dès aujourd'hui pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Malgré les accusations de fraude lancées par l'opposition, la commission électorale a annoncé hier la victoire de M. Mutharika avec 38,57% des suffrages devant son principal rival Lazarus Chakwera avec 35,41% des voix. L'opposition n'avait pas fait savoir ce matin si elle comptait contester ses résultats devant la justice. Au lendemain des élections, la société civile locale et les observateurs internationaux s'étaient réjouis presque sans réserve de la bonne tenue du scrutin. Et en Guinée, le ministre de la Justice, Cheikh Sako, a présenté sa démission au lendemain, au président Alpha Condé, au moment où le pays connaît un vif débat sur l'opportunité d'une nouvelle constitution. Maître Sako est contre toute modification de ce document fondamental. Le président Alpha Condé a nommé à sa place un ministre par intérim, Mohamed Lamine Fofana, son conseiller en charge des relations avec les institutions républicaines. Des explications à Conakry de notre correspondant Zakaria Kamara.
La nouvelle s'est vite répandue comme une traînée de poudre. D'abord parce qu'elle concerne l'un des proches collaborateurs du président Alpha Condé, mais aussi Maître Cheikh Sako annonce sa démission dans un contexte de crise qui oppose les magistrats aux chefs de file de la majorité présidentielle. Enfin, cette nouvelle est beaucoup commentée à cause des raisons du départ du ministre de la Justice. Dans le courrier qu'il a adressé lundi au président Condé, Maître Cheikh Sako dit n'avoir pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution. Compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la constitution en vigueur, vous comprendrez que je ne puisse plus continuer à exercer la fonction de ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'adresse-t-il au chef de l'État guinéen. Cheikh Sako affirme avoir tiré les conséquences du silence du président Condé depuis le 4 avril dernier, jour de leur rencontre, une rencontre au cours de laquelle le désormais ex-ministre de la Justice rappelle avoir demandé au président guinéen de le remplacer. Le Front National pour la Défense de la Constitution qualifie la démission de Cheikh Sako de salutaire et lance un appel aux autres membres du gouvernement de se désolidariser du projet de troisième mandat. C'est la troisième démission depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Cette démission intervient après celle de Khalifa Gassama Diaby, ancien ministre de l'Unité nationale, et de Sidya Touré, ancien haut représentant du chef de l'État. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Merci Zakaria. Au Soudan, les leaders de la contestation ont appelé à observer ce mardi une grève générale pour accroître la pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils plus de 6 semaines après avoir écarté Omar El-Béchir sous la pression de la rue. Des employés de l'aéroport de Khartoum, de la Banque centrale, de la Compagnie nationale d'électricité ou encore des fonctionnaires du parquet général ont annoncé leur participation à cet arrêt de travail de 48 heures prévu aujourd'hui et demain mercredi. Et puis l'Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi le lancement d'une vaste campagne de vaccination contre le choléra dans l'est de la République démocratique du Congo. L'OMS rappelle que l'épidémie d'Ebola n'est pas la seule à frapper la RDC. Plus de 800 000 personnes seront donc vaccinées contre le choléra dans le Nord Kivu. Jean-Roger Bion à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez l'emblématique Henri Francis. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.